ça me fait très plaisir de vous rejoindre sur ce plateau et de reconnecter encore une fois avec les écouteurs de Radio Okapi.
Oui, mais je ne vous ai pas salué. Hein.
Si, oui, j'ai l'impression.
Ah, voilà.
En tout cas, quand on a échangé avant. Bonjour de toute façon.
Et à vos auditeurs aussi. Voilà, alors, comme j'ai posé, je repose ma question. Alors, vous êtes là, ambassadeur de la Suède, pour parler de la femme du Congo ou de la femme de la Suédoise.
Tout à fait. Et nous nous trouvons donc vendredi 6 mars, n'est-ce pas ? Dans deux jours, c'est la journée internationale de la femme. Une excellente occasion, je le pense, pour promouvoir les messages de mon gouvernement, les messages de Suède sur les droits de la femme, tant en Suède que dans le monde. Et en RDC, là où je fais ma mission diplomatique. Et j'aimerais dire, pour introduire notre conversation, Nicole, que notre expérience en Suède, en tant qu'un petit pays, dans la périphérique nordique, avec seulement 9 millions d'habitants, c'est que nous sommes dépendants du monde. Nos exportations sont la base de notre économie et nous avons besoin de toutes les ressources humaines, tout le capital humain de notre pays, les femmes, les filles, les garçons, les hommes, pour évoluer, devenir forts et succéder. Donc, notre conviction au sein de la population, mais aussi dans la politique étrangère du gouvernement de Suède, c'est qu'il est vital de donner les mêmes opportunités et ressources aux filles et aux femmes qu'aux garçons et aux hommes. Donc l'égalité de sexe est certes un droit humain, mais c'est aussi une logique socio-économique. Voilà notre expérience, et c'est pour ça que la question genre se trouve au cœur de l'action de Suède en RDC.
Voilà, Madame Annika. Alors, revenons sur la journée du 8 mars qui est dédiée à la femme dans le monde. Hein. Alors, quel est le sens que la femme devrait accorder, selon vous, à cette journée ?
Je trouve que c'est une journée importante pour avancer la prise de conscience de tous les membres de chaque société au monde, en Suède, au Congo et ailleurs, que l'égalité entre femmes et hommes, filles et garçons, profite à toute la société. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un faveur, c'est un droit qui revient aux filles et aux femmes, mais c'est aussi une raison pour évoluer la société.
Oui, pour la société, pour que la société évolue, vous l'avez si bien dit. Alors, vous vivez ici au Congo, est-ce que l'on peut dire que la population congolaise en général a compris le sens de cette journée et célébrée à travers le monde entier?
Je pense qu'il y a un chemin à faire pour engager davantage, surtout les hommes et les garçons, dans la mobilisation, dans ce prise de conscience, aussi au niveau des femmes et des filles. Nous pensons que ce beau pays qu'est le Congo a vraiment besoin de toutes ces filles et femmes pour consolider la paix et pour développer le pays. Des grands enjeux pour le Congo qui sort de guerres désastreuses, terribles, se trouve maintenant dans une phase beaucoup plus prometteuse où il s'agit justement de consolider la démocratie et le développement et la paix. Parce qu'une paix sans les femmes, ce n'est pas une paix pour tous et non pas une paix durable.
Ben voilà, alors nous poursuivons toujours avec nos questions sur les femmes. On est là pour parler de femmes, hein.
C'est femmes, ça, entre femmes.
Oui, et entre femmes, comme vous l'avez dit.
Oui.
Oui, prochainement, j'aimerais bien quand même avoir un homme pour avoir deux sons de cloche. Hein.
C'est ça.
Oui, alors, nous savons que la Suède accompagne les femmes dans leur combat, surtout en RDC, parce qu'on va parler de la RDC. Alors aujourd'hui, où en est-on avec l'application de la résolution 1325? La Suède, on le sait, c'est beaucoup impliquée hein, dans cette résolution des Nations Unies.
Ah, tout à fait, Nicole. Merci d'évoquer cette résolution historique du Conseil de sécurité qui fête son 15e anniversaire cette année. En fait, cette résolution, c'est la reconnaissance de ce principe qu'il faut toutes les ressources humaines d'une société pour prospérer. C'est la première résolution du Conseil de sécurité sur les femmes, sur la paix et sur la sécurité. Donc, maintenant, au bout de 15 ans, il est temps de faire un bilan. Qu'est-ce qu'il est devenu avec les trois objectifs principaux, c'est-à-dire, un, impliquer plus de femmes dans les opérations de maintien de la paix, deux, de renforcer le rôle des femmes dans la réponse humanitaire, dans les situations post-conflictuelles, et troisièmement, appliquer une perspective globale en matière de genre, lors de la planification et la mise en œuvre des interventions pour la paix et la stabilité. Alors, avec votre permission, j'aimerais vous donner mon interprétation, l'analyse, la lecture que fait mon gouvernement des avancées en RDC. Il y a, nous pensons, eu une amélioration de la participation des femmes dans les réformes politiques et juridiques, et la Suède a été fortement engagée à travers notre coopération internationale de développement. Mais la participation politique des femmes reste toujours faible. Nous le voyons, moins de 15% des ministres du nouveau gouvernement sont des femmes. C'est une amélioration, mais à notre avis, ça ne suffit pas.
Pourquoi faire ?
C'est ça. Les prochaines élections seraient peut-être, ou seraient sans doute, une excellente occasion de changer ces structures. Il y a eu aussi ce renforcement du cadre juridique en faveur des femmes et des filles, auquel mon gouvernement a contribué de façon considérable, mais entre autres, le code de la famille, par exemple, n'a toujours pas été adopté et une femme en RDC est toujours soumise à la volonté et à l'opinion de son mari. Aussi dans la loi électorale qui a été adoptée récemment, il n'y a aucune mention de la représentation des femmes dans les organes élus. Et à notre opinion, ça freine non seulement la participation et la représentation des femmes et des filles dans la société. Mais ça a aussi des conséquences négatives sur le développement social et économique du pays.
Voilà, vous avez tout dit sur ce que vous pensez des avancées, justement. En ce qui concerne l'implication des femmes et tout ça partout, pas politique, dans les lois et tout ça qu'on devait changer. Madame, on va un peu souffler en musique. Vous aimez bien la musique?
Absolument, surtout la musique congolaise.
Ah oui, ben la musique congolaise, c'est un peu plus tard. Bon, on va se quitter en musique pour vous.
D'accord.
Ouais, c'est pas encore, on n'en est pas encore là, nous en sommes pas encore là. Nous allons écouter Lincha dans Ne m'en veux pas. Merci.
Que tu me laisseras, je ressens déjà le vertige. La vie écorche, se mord chaque fois. Les douleurs qu'elle inflige, les désintègres plein le cœur. D'avoir cru en notre bonheur, on a tout essayé, mais on peut s'empêcher de s'entre-déchirer. Si je m'éloigne, I wanna
c'était Ne m'en vais pas avec l'artiste Lynch. Alors, on va revenir à Madame Annika Ben-David. C'est l'ambassadeur de la Suède en République démocratique du Congo. Madame, nous sommes avec vous. Vous êtes notre invitée. Hein. Vous, d'ailleurs, vous avez ouvert avec nous le mois de la femme, le mois de mars. Parce qu'on aura des séries, des émissions sur la femme sur Radio Okapi. Alors, nous allons parler du gouvernement actuel suédois qui est le seul de l'Union européenne qui se compose de plus de femmes que des hommes. Et la Suède affiche un équilibre femmes-hommes, que ce soit chez les parlementaires ou chez les ministres. Alors, la question, nous savons qu'il n'existe aucune loi, parce que tout à l'heure on parlait des lois sur la parité en République démocratique du Congo. Or, chez vous en Suède, il n'y en a pas. Alors, mais comment est-ce que vous êtes parvenu à une vraie parité au sein des institutions?
Voilà, Nicole, je pense qu'on est venu là à cause d'une évolution graduelle de à la fois la législation, mais aussi les mentalités. Je crois que ces deux éléments se sont développés en même temps. Il y a eu quelques lois tout à fait historiques, iconiques, qui ont eu un impact très important sur l'émancipation et l'autonomisation des femmes. Il y a 40-50 ans, il y avait la loi sur le congé parental. Vous savez que maintenant, chaque parent, soit femme ou homme, bénéficie d'un congé parental qui est payé, subventionné par l'État, qui permet donc de mener une carrière pour les femmes. Mm-hmm. Il y avait aussi la loi au début des années 70 sur les crèches communales, une loi qui disait que chaque citoyen, chaque mère ou père avait droit à une crèche subventionnée par l'État pour son enfant. Donc ça a formé les mentalités, mais à la base, je crois que c'est une réalisation du thème que j'ai évoqué au début de notre échange, que l'égalité n'est pas seulement un droit, mais c'est aussi un facteur, une logique, un élément crucial pour le développement socio-économique de n'importe quel pays.
Voilà. Alors, au niveau international, on voit aussi la Suède s'impliquer dans la lutte pour la promotion des droits des femmes. Peut-on dire aujourd'hui que la politique étrangère de la Suède est féministe?
Absolument. Elle l'est. Nous avons eu des élections en octobre dernier et le nouveau gouvernement a adopté une politique étrangère délibérément féministe. Dont l'objectif est de faire des femmes et des filles des acteurs du développement et non pas des spectateurs incapables d'influencer leur propre avenir. Mmh. Et ça, autant sur échelle suédoise, mais aussi dans le monde à travers notre dialogue politique, notre coopération au développement que nous menons dans chaque pays où nous sommes présents, à travers une mission diplomatique, à l'ordre d'office également en RDC.
Une question, Madame l'ambassadeur. Il y a toujours des contrepoids. Ben, la Suède n'est pas... En fait, il n'y a pas des antiféministes, il n'y a pas des gens qui critiquent cette politique.
Plus tellement maintenant. C'est-à-dire que si on regarde la loi des congés parentaux, maintenant, presque un tiers des pères suédois partagent ce congé d'une année avec les mères. C'est devenu une opportunité importante pour les pères et c'est devenu normatif. Ils peuvent toujours choisir de prendre juste un mois, mais un nombre croissant prennent quand même 6 mois. Donc je pense que là, les mentalités ont aussi changé.
Et les hommes ont compris, surtout eux.
Oui, je pense qu'il y a une réalisation.
Ils sont durs à courir parfois.
Oui, non, mais je pense qu'il y a une réalisation. Surtout au sein de la famille, je pense qu'il y a une réalisation des jeunes pères suédois qu'ils ne veulent pas passer de côté avec ces premières années formatrices avec leurs enfants. Ils veulent nouer des relations très, très étroites avec leurs enfants. Mm-hmm. Et c'est plutôt une position psychologique, j'imagine, un intérêt humain. Et voilà. Sinon, c'est clair qu'il y a toujours des débats. Maintenant, une question qui se débatte en Suède actuellement, c'est est-ce que nous allons introduire des quotas pour des sociétés, pour les... J'oublie le mot, il faudra que vous m'aidiez, Nicole, comment on dit pour les directions de grandes sociétés, qui sont toujours dominées par les hommes. Est-ce qu'il faudrait introduire un quota ou non? Là, le gouvernement ne s'est pas encore décidé. Il y a un débat entre les différents acteurs politiques et les différents partis.
Il y a aussi des choses à faire aussi.
Absolument, là-bas. Oui, oui.
Ah ben, nous, on y va lentement, mais sûrement. La République démocratique du Congo aussi a fait quelques avancées. Vous l'avez aussi dit, évoqué. Alors, la Suède a initié une étude, parce qu'on n'a plus assez de temps, voilà. La Suède a initié une étude sur l'identité de l'homme en vue de mieux engager les hommes et les garçons dans la lutte pour une meilleure égalité en République démocratique du Congo. Étude qui a été d'ailleurs lancée le 26 février par la ministre du Genre, Madame Bijou Kat. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, tout à fait. Nous avons réalisé... La question genre est tout à fait prioritaire dans l'action et l'engagement de la Suède en RDC. Nous sommes le cinquième plus grand bailleur de fonds et la question genre est une priorité transversale dans tous nos programmes. Nous avons compris... ou conclut plutôt que la question de l'égalité entre les sexes ne concerne pas seulement les femmes, mais qu'il faut travailler aussi avec les hommes pour justement changer les mentalités, mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'identité d'un homme au Congo aujourd'hui, quels sont les concepts identitaires ou identitiques qui prévaut. Je pense que beaucoup des changements de fond qui devraient se faire en vue d'une meilleure égalité demandent justement un changement de mentalité. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer cette étude sur l'identité masculine en RDC.
Voilà, madame, les bonnes choses ne durent pas. La Suède, c'est en tout cas le partenaire de la femme, de toute personne genrée, j'aime bien dire ça, au Congo. Alors, j'aimerais bien savoir, enfin, vous donner l'occasion de dire quelque chose à toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont, qui aiment le genre, qui sont impliqués dans la lutte du genre de la parité en République démocratique du Congo, à l'occasion justement du 8 mars.
Eh bien, je saisirai l'occasion de saluer toutes ces femmes, filles, hommes et garçons congolais qui, à travers leur résilience extraordinaire, vont de l'avant et toujours si dynamiques, pleins de vitalité et qui veulent bâtir le développement, construire la paix au Congo. Nous proposons de le faire en moyen d'une meilleure égalité, et nous sommes fiers d'être là et de vous accompagner, de travailler avec vous.
Merci Madame Annika Ben-David, je rappelle, vous êtes l'ambassadeur de la Suède en République démocratique du Congo. En tout cas, merci d'avoir inauguré ce mois de mars avec tous les éditeurs, toutes les femmes en particulier des radios Okapi, et d'avoir accepté notre invitation surtout.
C'est moi qui vous remercie.
On va se séparer en musique.
Merci. Vous causez, vous causez. Libre et parfait.